et les disciples. Une sainte famille aussi multiplie les disciples. Le message d'aujourd'hui le premier était le discipola et grandir ensemble. Aujourd'hui, c'est la mission, multiplier les disciples. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Je vais demander à Dorcas de lire la parole. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de tous les disciples, de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci Dorcas. Restons debout pour la prière. Père, nous te remercions encore pour le don de la vie, pour le don des enfants. Nous te remercions parce que tu nous as donné une vie nouvelle à travers ton Fils Jésus-Christ. Jésus, nous te remercions d'être venu, de nous avoir aimés jusqu'à la fin, en passant par la croix, en mourant à notre place, afin que nous puissions être en communion avec le Père et être en communion avec toi et être remplis de ton esprit. Seigneur Jésus, nous prions ce matin que tu nous enseignes comme tu l'as fait avec tes premiers disciples. Nous te remercions parce que ta parole ne passera jamais. Et merci parce que d'avoir préservé ta parole. Puissions-nous bien écouter, bien entendre, comprendre et nous engager à te suivre avec obéissance dans tous les domaines de nos vies. Nous prions, nous demandons cela au nom de Jésus. Nous demandons cette grâce au nom de Jésus. Pouvez vous asseoir. Alors, commençons par un résumé de deux premiers messages de la série. Dans le premier message de cette mini-série, nous avons résumé les discipolas de deux mots, disciples, suivre Jésus. Un disciple n'est pas un spectateur, un consommateur. Un disciple de Jésus est une personne qui apprend de Jésus, qui le suit. Et comment faisons-nous des disciples? Dans la Grande Commission contient trois participes subordonnés qui nous disent comment aller, baptiser et enseigner. Premièrement, aller. Jésus a confié une mission mondiale à ses disciples, faire des disciples de toutes les nations. Nous ne pouvons pas faire des disciples sans nous déplacer vers les gens. Dans le deuxième message de cette série, le pasteur Vin a expliqué le deuxième participe. Quand on suit Jésus baptisé, les disciples de Jésus sont baptisés dans une relation avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père nous adopte dans sa famille, Jésus nous rachète et le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque nous sommes baptisés, la Trinité, nous sommes simultanément baptisés dans la famille de Dieu. Les vrais disciples sont toujours engagés envers Jésus et son peuple, la famille de l'Église. En tant que frères et sœurs en Jésus, nous recherchons à grandir ensemble, la famille. Alors, dans le troisième message, nous allons revisiter la priorité de la commission. Puis nous allons étudier la pédagogie. Mot pour la formation. Qu'est-ce qu'on les disciples et identifier. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis on va avoir la puissance de faire les disciples pour les multiplier. Commençons par la priorité faire des disciples de Jésus. C'est les anciens et les disciples de Jésus sont invités dans la mission des dieux, remplis de l'esprit pour former des disciples qui en forment d'autres, proclament l'évangile en parole et actes afin que les disciples de tout le peuple l'adorent pour toujours. Vous pouvez trouver cette définition dans notre philosophie ministérielle dans le site de l'Église. Et les valeurs, si vous voulez comprendre c'est quoi notre, c'est quoi, vous pouvez prendre ce pamphlet, ce flyer. à la sortie, aussi sur notre website. Je pense qu'il est aussi utile de visualiser cela avec un graphique. Alors, en tant que disciples de Jésus, nous suivons Jésus. Ensuite, nous sommes baptisés dans la famille d'Église où nous grandissons ensemble. Alors que nous grandissons ensemble, nous embrassons la mission de multiplier les disciples en faisant d'autres disciples qui font d'autres disciples. Et le cycle recommence jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y a une semaine environ, 100 membres de Willingdon ont participé à une journée de service. Les gens de Willingdon étaient dehors dans les rues de Willingdon et d'autres endroits. Ils partageaient l'évangile dans les parcs, priaient pour les gens, désherbaient les pelouses et peignaient les maisons et nettoyaient les terrasses. Et notre mission était d'aimer les gens et de partager la parole en acte. Les responsables ont voulu me garder silencieux, alors ils m'ont donné un nettoyeur à haute pression et m'ont demandé de nettoyer la terrasse d'une maison communautaire liée à Cedar Pregnancy Care Center à Barnaby. Depuis 35 ans, ce centre, le Cedar Pregnancy, anciennement Cedar Pregnancy Center, offre un soutien de qualité aux femmes confrontées à une grossesse inattendue. Le centre fournit un accompagnement compatissant, une éducation, des ressources et un espace sécurisé pour explorer les options de grossesse. En nettoyant la terrasse, j'ai réussi à avoir une brève conversation avec la directrice du programme, qui s'appelle Katrina. Et son témoignage m'a profondément encouragé. À un moment de son parcours, elle a eu besoin de soutien de Crisis Pregnancy Center, ce centre qui s'occupait de grossesses qui, en tant qu'adolescente, elle avait eu ce soutien en tant qu'adolescente enceinte. Des années plus tard, confrontée à une deuxième grossesse en situation de crise, elle a dû fuir une relation abusive. Elle a été secourue par Wings Fellowship, un autre ministère offrant la compassion de Jésus aux femmes et leurs enfants victimes de violences domestiques. C'est pendant son séjour là-bas qu'elle a rencontré Jésus et a été véritablement sauvée. Elle a entendu l'évangile et a donné sa vie à son nouveau sauveur. Dieu a accompli des miracles dans sa vie et dans la vie de ses deux enfants. Aujourd'hui, elle est la directrice du programme Cedar Pregnancy Center et aide à former des disciples parmi les femmes en situation de vulnérabilité cherchant l'espérance. Jésus ressuscité accomplit encore des miracles aujourd'hui. Vous savez quoi? Sa grande commission est pour tous. La question de Jésus pour vous et moi n'est pas quel est ton passé, ni combien as-tu étudié, ni depuis combien de temps es-tu mon disciple. Sa question est, transmets-tu ce que tu as reçu? Et quelqu'un qui vient juste à commencer à apprendre, reçu Jésus, à apprendre, il est déjà prêt à donner. Examinons de près le troisième participe de la Grande Commission, enseigner. Jésus a dit, faites des disciples en leur enseignant, observez tout ce que je vous ai prescrit. Que signifie enseigner pour Jésus? L'enseignement ne se limite pas à transmettre du contenu. Ce n'est pas de l'éducation pour l'éducation, ni de la connaissance pour la connaissance. C'est enseigner aux disciples à obéir ce que Jésus a commandé. Écoutez les paroles de Jésus, Matthieu 12, 49. Étendant sa main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » En d'autres termes, Jésus se préoccupe d'un mode de vie, engendré par l'Esprit quand nous lui faisons confiance et provenant du cœur. Une doctrine correcte ne suffit pas. C'est pourquoi notre relation avec Jésus doit Et ça doit aller vers la mission. L'enseignement est un moyen par lequel les disciples de Jésus sont continuellement transformés à leur rassembler. Qui doit être disciple? Jésus dit « enseignez-leur ». Chaque disciple de Jésus doit être enseigné, homme et femme, riche ou pauvre, personne de tout langage, ethnie, toute personne ayant entendu l'Évangile et répondu par la foi. Et je suis si reconnaissant pour ceux qui sont ceux de Willingdon qui font les disciples. Je pense au Life, tous les ministères des différents, ceux qui enseignent les enfants, les jeunes. Je peux en parler, les professeurs à Willingdon de School of Bible. Il y en a beaucoup qui font des disciples. Tous ces ministères et au-delà. Que faut-il enseigner? Jésus dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça la pédagogie, c'est la pédagogie, le commandement de Jésus. Nous n'enseignons pas une sélection des principes que nous approuvons. Des histoires, ne choisissons pas ce qui nous convient. Nous n'évitons pas les aspects difficiles. Nous enseignons tout, ses commandements. Cela inclut tout ce qu'il a enseigné par sa vie et son ministère. Souvenez-vous, les paroles de Jésus sont éternelles, comme il a dit dans Matthieu 24, 35. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront point. Alors, l'enseignement de Jésus, on peut vivre avec cette confiance que l'enseignement de Jésus ne sera jamais dépassé, remplacé ou prouvé faux. C'est son enseignement qui doit être transmis de génération en génération. Jésus a intentionnellement dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Il qualifie son enseignement de commandement à obéir quotidiennement. Ça soulève la question cruciale, qu'est-ce que Jésus a commandé? Qu'a commandé Jésus? Toute l'Écriture a inspiré de Jésus, mais concentrons-nous aujourd'hui sur l'Évangile de Matthieu. On peut aller de début, Genèse, jusqu'à la fin. On peut regarder les caractères et beaucoup de choses, les enseignements qui viennent, mais... Concentrons-nous sur l'Évangile de Matthieu. Dans l'histoire de l'Église, dès les premiers temps, l'Évangile de Matthieu a servi de manuel de discipulat. Il convient à la plus vaste collection des commandements de Jésus dans tout le Nouveau Testament. Les commandements de Jésus commencent au chapitre 4 par l'appel au royaume, se repentir du péché, se tourner vers lui et lui confier la vie comme sauveur et seigneur. C'est ainsi que la révolution commence. Les disciples apprennent ensuite tout ce qu'il a prescrit. Les cinq sections majeures de Matthieu, les citoyens du royaume, la mission du royaume, le parabole du royaume, la communauté du royaume et les chocs du royaume. Dans tous ces blocs, on va commencer avec le premier, le citoyen du royaume, avec le sermon sur la montagne. Jésus commande à ses disciples d'être humbles, doux, miséricordieux. Il leur commande d'être assoiffés de justice, artisans de paix, être sel et lumière du monde, marcher dans la pureté, aimer même leurs ennemis, confiant en Dieu en tout et bâtir leur vie sur son enseignement. Ça, c'est la première section. La deuxième section, c'est la mission du royaume. Jésus ordonne de proclamer l'évangile du royaume aux disciples, prier pour les malades, affronter l'opposition sans crainte, de ne rien craindre, de prendre sa croix et le suivre. Dans le troisième point, la parabole du royaume, Jésus commande de vivre le mystère du royaume. Il dit que certains le rejetteront immédiatement. D'autres le recevront plus avec joie et puis ils vont l'abandonner. D'autres encore porteront le fruit, porteront plus de fruits en abondance. Ils ordonnent aux disciples de chercher le royaume comme un trésor caché, comme une perle de grand prix. Et puis la quatrième section, la communauté du royaume. Jésus commande à ses disciples d'avoir l'humilité comme les enfants. Il leur commande qu'ils aient la résistance à la tentation de la grandeur, qu'ils pratiquent le pardon radical et travailler pour la réconciliation au sein de la famille. Et dans la cinquième section, le choc des royaumes, il y a tous les discours sur les montagnes des Oliviers. Jésus anticipe son retour. Il ordonne aux disciples de vivre dans l'attente, de discerner le temps, de partager l'évangile à toutes les nations et d'espérer son règne éternel, son retour. Et le résumé dans Matthieu 22, 30, il résume cela, Matthieu 37, 35, il dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça, c'était un résumé de ces commandements qu'il y a dans Matthieu, le livre de Matthieu. Évangile de Matthieu. Certains diront obéir l'enseignement de Jésus devient de plus en plus difficile aujourd'hui au Canada. Pour relativiser, souvenez-nous, les gens nous rejettent. Pour avoir une perspective, ça serait bon de revisiter l'histoire, comme je l'ai dit dans des messages d'avant. Il y a un mouvement né il y a 500 ans qu'on appelait les anabaptistes, avec les universités, à l'université, avec les étudiants à Zurich. Il y en a qui sont morts pour cette conviction. En 2009, j'étais à Zaporizhzhia, en Ukraine. Et là-bas, j'ai entendu une histoire d'un pasteur baptiste ukrainien qui m'a confirmé une histoire que j'avais... qu'il a partagé avec beaucoup d'émotion. Pendant la Première Guerre mondiale, c'était une époque chaotique. À cette époque, l'Ukraine alors faisait partie de l'Empire russe. Des jeunes hommes enrôlés dans l'armée russe. Certains d'entre eux lancèrent ils décidèrent de commencer une mission auprès des soldats en donnant des soins médicaux aux blessés et distribuer de nouveaux testaments, de la littérature évangélique aux militaires. Beaucoup furent sauvés. Après la guerre en 1918, Jacob Dick, membre de l'église Mennonite, ingénieur à Moscou, il vivait à Moscou, et il se demandait qu'est-ce qu'il devait faire avec tous ces nouveaux chrétiens. Qu'est-ce qui devait être fait? Et Dieu lui donna une vision, la mission sous-tente. Il obtint des tentes de la Croix-Rouge et recruta des volontaires parmi les communautés allemandes, juives, lituaniennes, ukrainiennes et russes. Les volontaires on enseignait comment partager l'évangile en public et en privé, comment accompagner les nouveaux croyants et comment aussi étudier la Bible. Le matin, il y avait la formation et l'après-midi, les soirées, c'était l'évangélisation. Leur stratégie, c'est de suivre des soldats dans leur village pour y prêcher l'évangile et offrir des soins médicaux gratuits. Beaucoup d'églises avaient été plantées, beaucoup vinrent à Christ. Et souvenez-vous, tout ceci s'est passé pendant la révolution bolchevique de 1914 à 1919. Malheureusement, le 26 octobre 1919, Jacob Dick et de nombreux autres furent massacrés près de Zaporizhzhia par Nestor Makhno, un révolutionnaire anarchiste et sa bande rebelle. Durant la révolution bolchevique, les minorités ethniques étaient malvenues en Russie. Alors, avec la mort de Jacob Dick et ses volontaires, il y avait une question qui s'est posée. Et un autre membre de l'Église, qui s'appelait Adolf Reimer, professeur au séminaire théologique de Saint-Pétersbourg, a appris la nouvelle. Il rassembla les volontaires survivants de la région de Zaporizhzhia et les encouragea à organiser une école biblique itinérante. Et Dieu lui donna une idée de changer une stratégie. Et il suivit les volontaires et commença à aller avec eux. Et il commença une église biblique, comme l'église de, l'école de Willingdon, enseigner les autres. Et la mission grandit. Avant la Première Guerre mondiale, la Russie comptait environ 500 000 évangéliques. Après la guerre et la révolution bolchevique, ce nombre atteignit 3 millions. 600% de croissance pendant ces années. Alors Jacob dit qu'écrivit ces mots. L'amour est la force centrifuge poussant toujours le témoignage chrétien du centre de la foi, l'Église, vers le monde incrédule. Alors la question que je me pose maintenant, quand j'ai entendu cette histoire, si faire des disciples était possible durant la révolution bolchevique, pourquoi pas aujourd'hui? Des fois, je me dis que je suis trop doux, trop mou. Si les gens pouvaient aller à cette époque chaotique comme celle-là, il y avait tous ces dangers, et si pouvait être fait à cette époque, pourquoi pas maintenant? Aujourd'hui, des fois, nous reculons juste parce qu'on a peur d'être rejeté, parce que certains vont dire que ce n'est pas politiquement correct. Dans cet environnement d'aujourd'hui, soyons fidèles à la commission de Jésus. Quelle puissance nous habilite à être des disciples de Jésus qui en forment d'autres, ou que nous soyons même dans un milieu hostile. Nous avons parlé de la priorité, faire des disciples de Jésus. On a parlé de la pédagogie, les commandements de Jésus. Et concentrons-nous maintenant sur la puissance, la présence de Jésus. Jésus conclut la grande commission et par cette assurance. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'évangile de Matthieu s'ouvre avec la révélation de l'identité de Jésus. Matthieu 1, 23, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il commence avec cette révélation et puis il se referme sur la promesse de sa présence permanente. Il ne nous abandonnera jamais. Jésus dit, et voici, autrement dit, soyez attentifs, écoutez. Il ne déclare pas, je serai avec vous aujourd'hui, mais peut-être pas demain, je vais être occupé. Je pourrai peut-être pas être avec vous demain. Il affirme, je suis avec vous toujours. Il dit, je suis avec vous toujours. Et ce qui veut dire, toujours signifie chaque jour sans exception. C'est une promesse. Et le « je » est emphatique. Le « je » là qu'il dit, c'est emphatique. Qui est-ce le « je » là? C'est lui qui a offert le sacrifice parfait pour nos péchés. Notre glorieux Sauveur, c'est le Seigneur ressuscité, investi de toute autorité sur toute chose, dans le ciel et sur la terre. Il est le maître, le berger, l'ami. C'est celui en qui toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est lui qui est immuable, le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est lui qui promet, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Jusqu'à la fin des temps et jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'au fin fond. Alors, nous pouvons vivre la mission toujours, tous, chaque jour, partout, car Jésus est avec nous, à chaque disciple, chaque jour, partout. Il est avec nous. Et alors, dans la grande commission, il fait cette assurance. Je suis avec vous toujours. Et cette assurance qui nous rend la capacité de faire le deuxième. Allez, faites tes disciples, tu baptises. Nous rassurons sur sa force, on espère sur sa force pour nous rendre capables quand nous avons besoin de plus de patience. Le Saint-Esprit est avec nous. pour nous donner ses fruits de l'esprit. Il est avec nous quand nous partageons la parole avec un collègue, avec, quand il y a même une résistance. Il est avec nous quand on se tient debout pour notre foi. J'ai entendu un témoignage puissant d'un étudiant qui préparait le cas d'une la création dans un milieu où on parle où la théorie de l'évolution domine. On peut témoigner avec joie et on peut même vaincre, pas à cause de notre force, mais à cause de Jésus qui est avec nous et avec et autour de nous. Écoutez attentivement un témoignage d'un de ceux qui sont allés en mission. Nous quatre avons récemment eu la joie de servir au Moyen-Orient en mission courte durée. Aaron et Ernie ont travaillé sur les chantiers dans une maison sécurisée où des responsables ministériels. Kiana et moi avons rejoint 22 responsables de l'Église lors d'une retraite. Des leaders d'un pays où persécution et emprisonnement pour la foi. Beaucoup ont déjà été emprisonnés. Certains attendent en liberté surveillée avant de retourner en prison. Nous voulons partager brièvement comment ce voyage nous a impactés en tant que disciples et comment Dieu nous a utilisés pour être des disciples qui en forment d'autres. Voici quelques aperçus de cette expérience. Mes principes leçons sont la joie et l'affection de nos frères et sœurs persécutés. Cela m'a aidé à exprimer ma foi plus ouvertement à travers la guérison et les prières. Prier pour la. Cela a aussi surmonté ma réticence à conduire 1h30 dans le trafic pour les rencontres du soir. Je me sentais comme une autre personne avec eux. Nous avons fait. Dieu a fait un rôle. Quand je pense à. En pensant à ceux que j'ai rencontrés là-bas, j'ai été profondément touché par la joie qu'ils manifestaient malgré la persécution. Aucune trace d'apitoiement ou de tristesse. Leur joie dans le Seigneur restera pour moi un jour constant dans mes propres. Ils sont passés dans différentes situations, mais ils sont restés fermes dans leur foi. J'étais béni alors qu'ils ont prié pour nous et lavé même nos pieds. Et j'espérais que ma foi demeurera forte comme la leur si j'étais dans la même situation. J'ai senti comme je devais m'asseoir à leurs pieds et apprendre d'eux. J'ai été invité à enseigner sur la résilience, l'intercession, et j'ai même eu l'honneur de baptiser un de leurs. Et un moment marquant fut pour moi lors de l'enseignement de John sur la prière pour les nations, le corps du Christ à travers le monde. À ce moment, le Saint-Esprit a poussé un frère, lui-même persécuté, à écrire une lettre à l'Église canadienne. En voici un extrait que je voudrais partager. La foi au Canada semble plus facile. Vous avez la liberté, les églises sont ouvertes, les Bibles sont sur les étagères, les sermons sont en ligne. Mes frères et sœurs, savez-vous où se cache le vrai danger? Dans le confort, l'indifférence, un assoupissement spirituel bercé par le coussin douillet du pragmatisme, dérobant silencieusement notre foi. Réveillons-nous, car le christianisme n'est pas un mode de vie ou un recueil de doctrines. La foi est un combat. La foi est une lumière dans les ténèbres. La foi est de dresser l'étendard du royaume dans un monde hostile. Oh, nous avons été profondément marqués. Et au milieu de tout ça, Dieu nous a utilisé nos dons, notre présence pour encourager ses frères et sœurs. Nous avons grandi comme disciples tout en aidant d'autres. Ses frères et... Il vivait vraiment selon la parole de Dieu. Qu'est-ce qui permet aux persécutés d'être remplis de foi, marqués par la joie et de prier pour de penser au-delà d'eux-mêmes, même pendant leur souffrance. Penser à nous et prier pour nous. Ces frères emprisonnés qui a écrit la lettre que Kian a lisé, il a été emprisonné plusieurs fois à cause de sa foi. Et il dit, pendant les temps de souffrance, il a entendu Jésus lui dire, tu n'es pas seul. Il écrit ces mots pour nous encore aussi. Sortez de votre confort. Transformez vos églises en forteresses de prière. Faites de vos foyers des autels d'adoration. Enseignez à vos jeunes des histoires vivantes d'une foi vivante. L'heure du compromis et du christianisme passif est révolue. Revêtez l'armure de Dieu, priez, combattez, pardonnez, intercédez et témoignez avec audace. Puisse Dieu faire de nous des disciples qui suivent vraiment Jésus. Retournons sur notre graphique. Nous ne sommes pas spectateurs, nous ne sommes pas juste consommateurs. Nous sommes appelés à suivre Jésus et à faire des disciples. Alors que nous faisons cela, nous entrons en communion avec les autres frères et sœurs qui font partie de l'Église. Nous grandissons ensemble, ensemble et nous faisons des disciples. Alors que nous faisons cela, beaucoup d'autres disciples vont être faits de génération en génération. On a parlé de ces cinq grandes sanctions. Chose intéressante, que la dernière partie, 26 à 28, c'est à propos de la passion et de la résurrection de Jésus. Ça ne finit pas avec un ensemble d'enseignements. Ça ne finit pas avec la résurrection de Jésus. Pourquoi? Une autre façon de poser la question est celle-ci. Pourquoi à la résurrection, on dit que Christ est ressuscité? Oui, il est ressuscité. Pourquoi on ne dit pas « Christ ressuscita » au passé? Et on dit « Oui, il ressuscita ». Laissez-moi citer... L'importance suprême de la résidence n'est pas dans le passé. Christ est ressuscité. Si que cela puisse arriver au Canada, la résurrection le dimanche, ce n'est pas une histoire ancienne. Mais un nouveau départ. Christ est vivant. En tant que disciples, nous formons des disciples de toutes les nations à la lumière de la croix, du tombeau, de la résurrection et de l'exaltation de Jésus et de sa présence permanente par l'Esprit. En d'autres mots, l'évangile de Matthieu n'est pas terminé. Tous ceux qui suivent Jésus écrivent de nouveaux chapitres en formant des disciples. Les chapitres de l'Évangile sont écrits pendant que nous faisons ce que Jésus nous envoie à faire aujourd'hui. Alors, vivons cette vision de cette Église, la famille en mission avec Jésus, tous les jours et partout. Amen. On va prendre un moment pour la réflexion. On va laisser trois questions sur l'écran. Premier, comment la présence continuelle de Jésus affermit-elle votre témoignage et vous encourage à obéir dans votre marche aujourd'hui? Deuxième question, y a-t-il un commandement de Jésus à obéir aujourd'hui? Et trois, Jésus a fait le discipulat la priorité. En faites-vous une priorité dans votre vie? Prenez un temps pour réfléchir sur ces questions et puis l'équipe de louange va venir nous diriger. Je vais indiquer les leaders,